Bonjour Giro, bienvenue.
Salut.
Ça va?
Qui est Giro?
Ah ben justement, on s'est dit qu'on gardait le pseudo.
Bien sûr.
Parce que, bon, je te dirai après.
Ouais. C'est le nom d'auteur.
C'est le nom d'auteur.
C'est le nom de l'auteur.
Et alors cet auteur, quand on recherche pour savoir qui c'est, on peut lire « Giro a pas mal traîné dans les scènes punk et squat européennes des années 80 et 90 ». Vivre ou libre ou mourir, voilà la devise. Activiste queer à Lyon, il crée le fanzine Star en 1992, puis écrit dans Bang Bang. Qu'est-ce que c'était Bang Bang ?
Bang Bang, c'était le fanzine des PD francophones. À l'époque, c'était un réseau de PD suisses, belges et français et bretons. Et donc, on faisait un fanzine, on faisait des rencontres deux fois par an dans des gîtes. Et bon, c'était des rencontres. Libertaire, tapette radicale, anarcho-pédale, etc.
Et, dont tu parles dans le livre, d'ailleurs.
Oui, voilà, j'en parle dans le bouquin.
Mm-mm.
Et donc, on faisait des rencontres d'une semaine, deux fois par an. Et de ces rencontres, on publiait le Bang Bang, qui était un fanzine, donc qui sortait du coup deux fois par an.
Mm-mm.
Sur des thématiques, pas le premier numéro, mais dès le deuxième numéro, sur des thématiques. Sur les violences, sur le travestissement, sur le genre, sur les violences. Enfin oui, je ne sais plus exactement les thèmes qu'il y a eu. Et ben voilà, ça c'était Bang Bang, et ça a duré 5 ans.
Et c'était basé à Lyon.
C'était Lyon, Genève, Nantes, Bruxelles.
Tout ça.
Et ouais. Donc, aujourd'hui et depuis pas mal de temps, c'est à Toulouse que tu t'agites.
Ouais, que je grogne.
Que tu grognes, notamment à travers l'association Crash.
Oui, voilà, c'est les cellules de recherche et d'activité contre l'homophobie ou contre l'hétéronormalité, c'est comme on veut. Et donc, c'est une association qui, depuis 2004, organise le festival XXYZ, le festival DIY de films DIY transpédéguines.
DIY, c'est do it yourself.
Do it yourself, et voilà.
Donc, fait même.
Et en 2004, on a organisé le Crash Fest aussi, donc 4 jours de concerts de groupes transpédéguines et féministes. C'était à la Dynamo et au TDB. Et puis là, depuis l'année dernière, on s'est lancé dans l'aventure de l'édition de bouquins.
Mm-hmm.
Parce que certains d'entre nous écrivons, et on s'est dit bon ben pourquoi pas essayer de faire de l'édition, et puis bon ben voilà, et y a déjà quelques écrits sur le blog.
Il y a des brochures qu'on peut télécharger.
Oui, exactement. Et puis le premier bouquin qui sort avec l'association, c'est donc Comme un chien de Giro.
De Giro.
C'est moi.
Et alors, c'est tout fait main. C'est-à-dire, on peut dire deux mots sur la fabrication de ce livre.
Oui, alors, bah oui, c'est du DIY, quoi. Ça reste dans la pratique du DIY, puisqu'on l'a fait imprimer aux presses du Fulga, qui est une petite imprimerie de...
Une ex-petite imprimerie.
De...
Parce qu'il y a un fait tragique à la fin de l'année qui a fait que... Bon, on peut le dire, il y a un chauffeur qui est rentré dans l'imprimerie avec sa voiture, ce qui était autant improbable, et l'imprimerie est en partie détruite, c'est dommage.
Voilà, les machines ont été détruites, voilà. Et une partie des bouquins ont été détruits aussi.
Et tout ce qui reste, c'est ton livre.
Il doit en rester quelques autres aussi, parce qu'ils avaient quelques autres impressions, mais... Mais bon, ils ont fait détruire leur imprimerie.
Alors, ce livre ?
Ben alors, c'est un livre que j'ai écrit... bon, j'ai mis du temps à l'écrire, en fait. C'est en 97, je me rendais à Bourges pour un festival qui s'appelle Émotion. C'était un festival de musique autour du son. Et sur le trajet, je me retrouve à Saint-Germain-des-Fossés parce qu'il y avait un changement de train, et puis je m'étais fait têche.
Ça se trouve où, Saint-Germain-des-Fossés ?
Saint-Germain-des-Fossés, c'est dans l'Allier.
D'accord.
Enfin, à l'époque, j'habitais à Lyon, donc c'était sur le trajet Lyon-Bourges. Enfin, il y avait plusieurs changements à faire. Et du coup, je me retrouve là et je vais à la poste chercher de la thune parce que j'avais pas de thune, j'avais 5 heures d'attente. Et sur le trajet, je croise 3 mecs. Et à l'époque, j'avais les cheveux roses, j'avais les ongles limés et vernis en rose, j'avais des bijoux et aux doigts, etc. Et bon, les mecs, ils m'ont pris pour un PD, ce qui n'était pas faux. Hein, mais bon, moi, j'essaie de leur faire croire que non, et bon, du coup, ils m'ont tabassé et ils m'ont violé.
Donc, tu te retrouves agressé un soir au milieu de, d'un
parc. Ouais, au milieu d'un parc, au milieu d'un, dans un bled que je connaissais pas. Au
France
milieu,
profonde, ouais.
Oui, oui, au milieu de l'Allier que je connaissais pas. Enfin, et puis, bon, puis ils m'ont pété, enfin, ils m'ont pété la gueule, ils m'ont pété mes lunettes et ils sont partis aussi avec mes lunettes. Et bon, je suis myope et je me suis retrouvé aussi vachement démuni par la suite parce que je me suis retrouvé dans cette campagne et sans rien voir et sans savoir quoi faire parce que bon, je veux dire, après la baston, je veux dire, t'as la tronche. Enfin, tu sais plus quoi faire, tu sais plus où t'habites, tu sais pas, enfin, t'es complètement démoli.
Mmh.
Et donc, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Il y avait une pancarte gendarmerie, je me dis, non, mais j'ai pas la gendarmerie, je... il m'avait cabossé, j'avais le... un cocard, je ressemblais un peu, j'étais un peu punky et tout, je me suis dit, si j'arrive là-bas, ils vont me garder, enfin, ils vont me prendre la tête.
C'était pas une histoire de principe, on va pas voir les forces de l'ordre, c'est une histoire essentiellement de, il va y avoir encore une confusion, quoi.
Oui, oui, il va y avoir une confusion, oui, oui, il va y avoir, ça, ça... Et je suis tout seul et je vois rien et, enfin, et je me suis dit, bon, je vais retourner à la gare et il me restait, à l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques dans les gares, cabines téléphoniques à carte. Et il me restait, style, 3 unités sur ma carte, enfin, un truc, bon, heureusement qu'il me restait 3 unités. Et donc, je téléphone à un copain et je lui dis, voilà ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce que je fais? Et donc, il téléphone à d'autres potes. Je lui donne le numéro de téléphone de la cabine téléphonique de la gare. Il me retéléphone et il me dit, bon, bah, écoute, tu bouges pas. Nous, on vient avec des potes, on vient te chercher et on te ramène sur Lyon.
Mmh.
Et bon, ça, c'est, voilà, c'est le début de l'histoire.
Ça, c'est le début de l'histoire. C'est pour ainsi dire ce qu'on trouve dans les journaux, dans la rubrique fait divers.
Mmh. Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais.
Et du coup, tu racontes donc cette agression, et surtout, qu'est-ce qu'il en découle, quoi.
Oui, c'est ça, parce que dès le lendemain, je me suis réveillé et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là la nuit dernière et tout. Bon, j'avais des paires de lunettes en rab à la maison, donc j'ai pu remettre une vieille paire de lunettes, ce qui permet de mieux réfléchir quand même, quand on voit mieux. Et bon, j'ai téléphoné à des potes et je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il m'est arrivé ça hier et tout. Et il y a une copine qui me dit, bah, si tu veux, d'abord, on va passer voir Kabiria, qui était l'association de santé communautaire avec les personnes prostituées sur Lyon et qui ont l'habitude de gérer les situations de violence. Et donc, on est passé là. Les copines m'ont dit, bon, bah, d'abord, tu vas aller voir un médecin pour qu'il fasse le bilan, voir comment t'es amoché et tout. Et puis après, si tu veux, on va voir un avocat et tout, voir ce qu'il faut faire. Et puis donc, bon, ça tombait bien parce que l'avocat de Kabiria, c'était aussi l'avocat des squatteurs, donc on se connaissait. Et donc la question s'est posée de porter ou de ne pas porter plainte. C'est si, soit on fait rien, soit on porte plainte.
Mm-hmm.
Et du coup...
C'est ça qui est très intéressant dans le livre, c'est toutes tes réflexions face à ce dilemme et face à comment tu te repositionnes par rapport à des idéaux où tu parles à un moment donné de la réalité déstabilise les prétentions et la dialectique radicale blabla de mes idéaux.
Bah oui, parce que moi j'étais contre les prisons, enfin j'étais contre... Bon, je m'étais déjà retrouvé chez les flics plusieurs fois, comme j'étais squatteur, donc je m'étais retrouvé déjà en garde à vue...
Oui, en général, tu jouais le rôle de la personne que les flics venaient chercher.
Oui, oui, c'est ça, j'étais pas victime, hein, j'étais toujours... Je m'étais retrouvé souvent comme coupable chez les flics. Et là, je me retrouvais dans une situation où j'étais victime, et en sachant que si je porte plainte, ça veut dire que je mets peut-être une enquête, quoique je me disais sur un viol de PD, squatteur, machin, ça m'étonnerait qu'il se passe grand chose et je pense qu'ils vont prendre la plainte et puis que ça va être glissé dans un tiroir et puis qu'on n'en parlera plus parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils se bougent le cul pour des gars comme moi. Et puis, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, les gens ont bougé. Enfin,
les gendarmes.
Au début, j'ai porté plainte à Lyon, donc c'était je suis allé à la police de Lyon. Et là, j'étais reçu par une nana et bon, plutôt bien reçu.
C'était correct le.
Ouais, plutôt correct. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et mais comme ça s'était pas passé dans la région, ça dépendait pas de cette juridiction-là et tout ça, donc il a fallu que je refasse une déposition un an plus tard avec la gendarmerie de Saint-Germain-des-Fossés, puisque ça s'est passé à Saint-Germain-des-Fossés, et que c'était de leur juridiction, enfin que c'était chez eux, quoi. Donc du coup là je suis tombé un an plus tard, entre temps j'avais déménagé, les gendarmes m'ont retrouvé et...
C'est les gendarmes qui sont venus te rechercher pour...
Ouais, ouais, ils sont venus à l'époque, après j'avais déménagé sur Toulouse, c'est eux qui sont venus me voir à Toulouse Et on a refait un deuxième déposition. Et bon, là, ils ont été... j'étais très étonné par leur motivation, en fait, puisque... il me disait, ben, nous on est bien content d'aller les chercher parce que c'est dégueulasse, etc. Enfin, c'était aussi vachement rassurant. Je m'attendais absolument pas à ça. Moi, je pensais que l'histoire était finie, qu'on n'en parlerait plus, quoi. Mmh. Et bon, juste, je portais plainte parce que, ben, il faut porter plainte parce que il faut que ça soit inscrit quelque part quand même que les PD se font casser la gueule et violer.
Voilà, c'était ça ce qui t'a finalement motivé à aller porter la plainte, le fait
de... C'était ça, et de me dire que c'était eux ou c'était nous, puisque si on leur laisse l'autorisation de casser la gueule et de... Moi, ils m'avaient pas tué ce soir-là, parce qu'à un moment, bon, pendant toute l'histoire, toute cette histoire de baston, de viol, etc., il y a un moment, j'avais un petit opinel dans mes sacs. Et à un moment, il sort l'opinel, et il y en a qui fait le mouvement, qu'il ouvre l'opinel, et il fait le mouvement, il passe l'opinel près de ses couilles, en me regardant, en me faisant comprendre qu'il va me couper les couilles. Et moi, je me disais, bon, bah là, ils vont me tuer, en fait. Ils vont pas juste me couper les couilles, et puis me laisser comme ça. Je pense qu'ils vont me tuer. Je pensais que c'était mes dernières secondes, quoi. Et du coup... tout ça, c'était pour dire...
On était à ce qui avait motivé la plainte.
Ah ouais, ce qui avait motivé la plainte et tout. Et je me disais, ben moi, ça se trouve, le prochain qu'ils vont pécho, ils vont le tuer pour de vrai, là. Mmh. Et ben moi, je suis quand même du côté des PD, et je suis quand même du côté des mecs qui se font casser la gueule et tout. Et pour moi, il était hors de question que ces mecs-là, de leur laisser une deuxième chance. Donc c'était une autre de mes motivations aussi.
On va peut-être dire la suite. J'aimerais juste faire remarquer que ce livre est un style irréprochable. C'est vachement bien écrit, et justement on passe sans arrêt puisque toi tu es le personnage qui te raconte, on passe sans arrêt point de vue à un autre, tu fais une balance. Par exemple, tu as dit le mot, juste quelques mots de la page 23 que j'aime particulièrement, je voudrais citer: victime, je n'aime pas ce mot, j'assume pas, je refuse d'être une victime, c'est tellement infantilisant, ça suit le verbiage de la compassion, le sourire mielleux et les tapotements dans le dos, l'accolade. Les victimes sont des objets modernes, des bibelots et breloques pour faits divers. On les aime comme elles sont. On les aime qu'elles se plaignent, qu'elles se sentent impuissantes, dépressives, faibles, perdues ou en insécurité permanente. Une victime aimable est une victime qui a peur. La victime participe à la promotion de la peur, est un des maillons indispensables à la propagande de la terreur. Les médias en vomissent tous les jours. Des cerveaux pétrifiés, tremblants de frayeur. Accablement, prostration, neutralisation globale. Ce sont les femmes et les enfants d'abord, corps dominés sur lesquels chacun peut s'asseoir la majeure partie du temps.
Oui, en fait, j'avais lu déjà quelque chose comme ça dans le King Kong Theory de Virginie Despentes. Elle avait développé déjà cette idée que j'avais trouvée super intéressante. Et bon, moi, je l'ai dit à la fin du bouquin. C'est un peu une de mes bibles, King Kong Theory de Virginie Despentes. Et je trouvais que son bouquin était super bien. Et moi, quand je l'avais lu, il m'avait quand même bien travaillé la cervelle. Plus, il me semble que dans le bouquin, elle dit que les gars en parlent pas tellement. Et ce que je trouve, ce qui était aussi une de mes motivations pour écrire ce bouquin, c'est qu'effectivement, les gars parlent très peu. J'imagine qu'il y a des PD qui ont déjà écrit sur les violences et tout. Bon, je connais pas les bouquins, mais je me disais, bon, c'est vrai qu'il faut écrire, en fait, en plus. On vient de scènes punk et tout le machin. Enfin, je veux dire, il y a d'autres choses qui sont en jeu aussi. Il y a notre culture, il y a tout ça. Enfin, moi, ce que j'aime bien aussi dans l'écriture de Virginie Despentes aussi, hein, c'est cette culture punk, etc. Et je me disais, oui, il faut écrire. Et justement, elle aborde cette chose de la victimité ou victimisation. Et je trouvais que c'était vachement bien. Donc, j'ai repris l'idée, je l'ai développée à ma façon. Pour moi, ce discours sur les victimes, ça a été le discours de Sarkozy pendant 5 ans, et qui est juste horrible, hein, parce que c'est un discours qui permet de manipuler la télévision. Enfin, on le voit avec les émissions qui sont en permanence à la télévision sur les victimes, et donc c'est un discours de flic, en fait. On en finit avec un discours de flic, et je trouve que c'est après difficile de se dire si on est victime ou pas victime, mais moi je pense que c'est important de se dire aussi que On veut pas faire la propagande de la police et de l'état policier. Et non, il y a certainement d'autres solutions ailleurs. Moi, je les ai pas, mais peut-être qu'en les posant en écrit, je sais pas, peut-être que ça peut amener les gens à en discuter et faire évoluer les choses.
Est-ce qu'avec le temps, en fait, lorsque tu t'es décidé à écrire, du coup, et donc à témoigner, ça n'a pas été trop dur, en fait, de revenir, en fait, dans ces souvenirs, dans cette réminiscence, enfin,
non. Non, pas du tout, parce que j'ai attendu 10-15 ans avant de le faire, en fait. J'ai attendu d'être vraiment... Bon, parce qu'entre-temps, j'ai fait une psychanalyse, machin, bon... j'ai pas fait que ça, j'ai aussi fait du théâtre, j'ai commencé à faire du spectacle et tout. Finalement, ça a bouleversé plein de choses dans ma vie, mais des choses plutôt en positif. Et ça m'a donné plutôt de l'assurance en moi. Mais j'ai attendu d'avoir fait tout ce travail-là pour pouvoir commencer à pouvoir écrire et justement ne pas mettre trop d'aigritude et trop de règlement de compte. En fait, j'ai pas envie de régler mes comptes avec les mecs qui violent et tout le machin. Je veux dire, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mmh. Et donc j'ai commencé à écrire qu'à partir du moment où j'étais prêt à ça. Et pour moi, c'était aussi important de pas y mettre trop de haine, de hargne ou de choses comme ça, et de plutôt de proposer autre chose, quoi. Enfin, pour moi, je l'ai écrit parce que je savais que j'étais prêt à, que l'écriture allait correspondre à ce que j'attendais de ce que j'aurais aimé lire là-dessus, par exemple.
Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que on continue de raconter l'histoire du livre.
Ah ouais.
Parce que ce qui est incroyable, effectivement, a priori, d'où tu partais, c'est que les flics vont faire leur boulot de flics.
Ouais.
Enfin, les gendarmes, en l'occurrence.
Ouais.
Et ils vont tomber sur les trois types. Ils vont
trois types. Ouais. Parce que, en fait, c'est le viol, c'est du comment dire, je sais plus le nom là.
C'est passible des assises, quoi.
C'est les assises. Donc, il y a eu une recherche à Interpol et tout le machin. Et les gars sont.
C'est
moi.
C'est ton agent littéraire.
C'est mon secrétariat. Non, ça va pas s'arrêter. Moi, ça dure ça sonne trois fois. Et
comme votre aile.
Donc là, on en était où, là, déjà?
Donc, oui, voilà, les recherches Interpol.
En recherche Interpol et tout ça. Et à l'époque, la Pologne ne faisait pas partie, parce que moi, les trois garçons étaient polonais. La Pologne ne faisait pas partie de Schengen, etc. Je ne sais pas s'ils font partie de Schengen maintenant et tout. Ils font partie
maintenant,
de Schengen.
Oui. Non,
voilà. Donc maintenant, il y a des échanges de dossiers policiers et tout machin. À l'époque, c'était pas le cas. Donc tant qu'ils étaient en Pologne, c'était impossible de les attraper. Mais eux, ils sont sortis de Pologne à un moment ou à un autre. Et ils sont allés dans des pays qui étaient sous Schengen, probablement. Et là, on les a retrouvés, en fait. Et ils ont été arrêtés sur deux ans, hein, en fait. Hein. Le premier était arrêté en 2000 et le dernier en 2002.
Mm-mm.
Et dans différents pays, quoi, je me rappelle plus vraiment, mais
Autriche,
Tchéquie et peut-être un dans le nord, dans un des pays du nord, je crois Suède ou je sais plus exactement.
Donc ouais, les gars se font serrer. Alors il y a ce passage qui m'a scotché dans le livre. Tu vas même recevoir une lettre. Toi, je ne sais pas, même pas comment il a ton adresse. Enfin, si, je crois que c'est explicité à un moment donné. Dans le dossier, ouais.
Bah oui, en fait.
Tu reçois une lettre d'un de ces trois gars.
Bah, au début, je reçois une lettre de ces co-détenus.
Voilà, c'est ça. Dans un premier temps, c'est des gars qui sont en cellule avec lui qui t'écrivent.
Ils m'écrivent une lettre pour me dire qu'ils sont avec un des gars. Bon, alors moi, pendant des années, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait, en fait. Hein. Je savais pas du tout où en était l'enquête, etc. et tout ça. Et petit à petit, bon, de temps en temps, je recevais du courrier de la justice, etc. Mais je savais pas.
Dire quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils avaient à te dire, la justice?
Ils m'ont surtout donné une nouvelle à partir du moment où il devait y avoir la confrontation. Parce qu'après, il y a eu la confrontation. Mais entre la confrontation et le dépôt de plainte, le deuxième dépôt de plainte. Enfin, le deuxième témoignage. J'ai pas eu de nouvelles trop. Et bon, je sais plus les lettres, à quel moment elles arrivent. Si elles arrivent... elles arrivent à peu près... Il y a un moment, hop, j'ai des nouvelles un peu de la justice et je reçois des nouvelles des co-détenus qui me disent qu'ils sont avec ce gars, que... Oui, parce que alors c'est un peu compliqué. J'espère que c'est assez clair dans le bouquin, mais il y a une confusion à un moment. C'est que lorsque les gendarmes me montrent 8 photos, je reconnais une photo, et les gendarmes me disent et qu'est-ce qu'il a fait lui? Et moi je dis lui il m'a tabassé et il m'a violé. Et parce que je pense que c'est monsieur que j'appelle Jed dans le livre. En fait, dans la réalité, c'est pas monsieur Jed, c'est monsieur Xac. Et bon, mais ça, je le saurais que le jour de la confrontation, parce qu'en les revoyant, c'est là que je me dirais, mais non, mais je me suis trompé, en fait. Sauf que le jour de la confrontation, j'ai pas pu le dire parce que mon avocat était persuadé que monsieur Xac était un des violeurs, parce qu'il y a eu, il y en a trois qui m'ont tabassé, il y en a deux qui m'ont violé. Donc il fallait que la justice sache qui a violé et qui a tabassé et qui n'a pas violé aussi.
C'est pas le même tarif dans ce cas-là.
Ouais. Bon, sauf que comme c'était en groupe, finalement ils ont eu le même tarif. Mais
d'accord.
Du coup, mais pour moi c'était important d'être très très clair. Et monsieur Xac était croyant, etc. Donc en plus il pensait que bon, il était homophobe, il pense que l'homosexualité c'est contre nature, etc. Et finalement je respecte. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il pense.
Mais c'est ça qui est qui est fou dans le livre aussi, c'est de voir comment.
Ben oui, parce qu'à chaque fois
je me réfléchis.
À chaque fois je me dis c'est son problème. Enfin, non, parce que.
Oui, t'es pas là pour le réformer, quoi, le gars.
Oui, c'est ça. Je vais pas essayer de le convaincre et tout. De toute façon, là, il est détenu. Enfin, je veux dire, je vais pas faire la promotion, je peux la faire ailleurs. Je l'ai fait ailleurs. Tu vois, je suis militant, donc contre l'homophobie. Donc ça va, je travaille contre l'homophobie sur d'autres terrains. Donc.
Donc du coup il y a cette lettre étonnante
qui me dit
est un mec bien, quoi, en gros.
Oui, ce type est un mec bien, il est marié, il a deux enfants et bon, la situation économique est difficile en Pologne, etc. Et il manque à sa famille, etc. et tout. Et ils me disent oui, effectivement, et c'est pas le violeur. Mais bon, à l'époque moi j'ai pas encore fait
le rapprochement.
J'ai pas fait le rapprochement et il y a pas encore eu la confrontation. Je pense pas qu'il y ait encore eu la confrontation à ce moment-là. Donc du coup je sais pas. Je prends l'information. Et je sais pas trop quoi faire du courrier, donc parce que je me retrouve tout seul et je me dis mais comment ils ont fait pour trouver mon adresse, parce que normalement ils ont pas à avoir mon adresse, et puis ils sont sept co-détenus et je me dis il y en a sept qui connaissent mon adresse, et bon, moi je sais pas s'ils me veulent du bien, du mal et tout. Ils ont pas l'air méchants, hein, les gars. Ils ont pas l'air méchants, mais j'ai pas envie qu'ils sachent mon adresse, quoi. Je me sens pas très rassuré. Et puis bon, 15 jours après je reçois une lettre de monsieur Xac qui s'excuse. Moi, après je comprends. Enfin, je bien sûr, il est dans une situation catastrophique. J'entends bien. Je suis pas pour les prisons. Donc j'entends bien que j'ai toujours eu peur d'aller en prison aussi, parce que bon, j'étais dans les squats. Enfin, bon, dans des trucs qui étaient aussi parfois super limites. Et j'ai des copains qui sont dans les squats qui étaient en prison. Et je sais très bien que des fois ça a pu me pendre au nez. Et j'ai jamais eu envie ça m'a toujours fait flipper, donc je l'en vis pas. Bien sûr que c'est catastrophique, sa situation, mais c'est lui qui m'a cherché, je veux dire. Je suis pas allé le chercher ce soir-là, et à un moment je le dis, je veux dire, j'ai aussi porté plainte parce que je voulais pas que le match finisse par un 1-0. Je voulais qu'il y ait égalité, 1-1, donc voilà.
Et le fait de recevoir des excuses, du coup, est-ce que ça change ta vision du bonhomme ou pas?
Oui, non, mais moi je me dis oui, j'aimerais bien le croiser, j'aimerais bien parler avec lui, mais bon, je sais pas trop comment faire, parce que je sais pas si ça existe à l'époque, je sais même pas si ça existe encore maintenant, s'il y a des trucs de choses comme ça où on peut être accompagné par des gens compétents, hein, qui seraient formés là-dessus.
Il y a des expériences là-dessus, pour info, mais ça ne se passe pas entre bon, on va dire victime pour aller vite, et agresseur, mais ça ne se passe pas directement sur le même cas. C'est-à-dire qu'il y a des expériences, il y en a qui sont menées en région parisienne en particulier, où des victimes, des gens qui ont été considérés comme victimes, peuvent rencontrer des gens qui ont commis des faits similaires pour discuter avec eux, mais pas les gens liés à leur affaire. Ce qui quand même te manque, parce que ça se passe quand même de particulier à particulier.
C'est des trucs qui pourraient bosser, enfin moi je sais pas, hein, parce que moi je me dis que c'est quelque chose que j'aurais aimé, parce que aussi pour vivre autre chose enfin, parce que bien sûr que il y a toujours aussi un peu ce truc de syndrome de Stockholm, là où on se dit oui mais les pauvres, parce que bon, leur histoire elle est pas facile non plus, elle est tragique. Enfin, c'est l'histoire de trois mecs qui viennent chercher, enfin qui achètent une liste d'employeurs pour venir travailler en France, et puis bon,
la liste est fausse.
La liste est fausse. Ils se retrouvent dans le Massif Central. Enfin, moi, je veux dire,
ils se font arnaquer, quoi. C'est des victimes, quoi.
Oui, c'est ça. Enfin, leur trajectoire, elle est pourrie aussi. Enfin, bon, c'est des losers comme moi. Et
Non, tu parlais de confrontation en fait depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu de moment pendant cette confrontation où tu as eu l'occasion, ne serait-ce que
de
rencontrer en Chiranos.
Parce que en fait la confrontation, ça se passe dans une, ça s'est passé à QC dans une toute petite pièce. On était déjà serrés les uns contre les autres. Et moi j'étais derrière avec l'avocat près de la porte d'entrée et de sortie. Il y avait encore deux gendarmes là et tout, mais bon, tu vois, il y a le juge d'instruction, il y a la traductrice,
le greffier.
Il y a le greffier, il y a leurs avocats, ils sont trois. Moi j'ai mon avocat plus les flics. Bon, on est dizaine dans, et puis on est les uns derrière les autres. Enfin, si tu veux, on n'est pas en cercle.
Comme ici.
On est pas vraiment face à face où
on
peut changer quelque chose.
Ouais, c'est ça. On a juste le juge d'instruction en face et puis moi je suis assis derrière eux, quoi.
Ok.
Donc il y a juste un moment où on se retrouve face à face. C'est juste parce qu'on leur demande de se lever pour voir si je les reconnais. Bon, je veux dire que grosso merdo je les reconnais pas, mais comme ils ont déjà avoué les trucs et tout, je me dis bah oui c'est eux. Enfin je les reconnais pas. Oui. Ils ont changé, hein. De 97, la confrontation, elle a lieu en 2004, et il s'est passé 7 ans. Ils avaient 20 ans, enfin, quand t'as 20 ans et quand t'as 27 ans, ton corps il évolue, ta tronche elle évolue, donc ils ont un peu changé, ils sont pas habillés pareil, ça s'est passé une nuit, j'ai reçu des coups, je les ai pas pris en photo, enfin bon, tu vois, j'ai perdu mes lunettes, j'ai une mémoire sélective qui fait que,
ouais,
tu vois, tu essayes de zapper, tu mets ça dans les tiroirs de ta mémoire, quoi, tu vois, et t'essayes de zapper le maximum, tu vois. Et du coup, dans la confrontation, puis c'est pas le but d'une confrontation, ça sert pas vraiment à ça. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse se voir à un autre moment et qu'on puisse dire, oui, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi.
Et peut-être une autre question un peu naïve, mais au parloir,
tu peux pas aller au parloir tant qu'il n'y a pas eu de procès.
D'accord.
Et surtout pas quand tu es mêlé à l'affaire.
D'accord.
Plus, c'est interdit par la loi.
D'accord.
Mais normalement, ils ont pas. J'avais pas le droit de leur écrire non plus et tout. Tu vois, par exemple, la deuxième lettre que j'ai reçue, quand le gars il m'écrit et tout, je sais pas quoi faire. Parce que je me dis, oui, je pourrais lui répondre, lui dire que j'entends ses excuses et que, bien sûr, j'entends très bien ses excuses, mais je crois que c'est. Enfin, je connais pas trop les lois. Moi, mon avocat, il est à Clermont-Ferrand. J'habite à Toulouse. C'est vrai que j'aurais pu lui téléphoner pour lui demander. Bon, je ne lui ai pas téléphoné. Je ne sais pas trop quoi faire, donc je fais une copie de la lettre et je lui envoie, quoi. Et je ne sais pas trop quoi en faire. Bon, donc je fais une copie et j'envoie à l'avocat pour qu'il gère ça. Je veux dire, c'est son métier. Puis, bon, je me sens un peu démuni. Et à chaque fois que je suis confronté à cette histoire, ça me met dans des états qui ne sont pas non plus super hystériques, tu vois. C'est pas la fête au village, quoi. Tu vois, quand je reçois les lettres, c'est pas la fête au village, c'est plutôt la journée qui commence mal, quoi.
T'as écrit un livre. Est-ce qu'on peut dire que maintenant que la page elle est tournée pour toi, est-ce que c'est
bon? La page elle est tournée depuis longtemps. En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, c'est parce que la page elle est tournée. Mais puis c'est peut-être un point. Enfin, est-ce qu'elle est tournée? Non, parce que oui et non. En fait, elle est finie pour moi parce que je pense que j'arrive à en parler sans y mettre tellement d'émotion. C'est-à-dire que je peux en parler avec du recul, mais aussi je l'ai écrit pour qu'on puisse encore en parler, pas spécialement de mon histoire à moi, mais de parler de l'homophobie et du cassage de gueule des PD, parce que ça existe tout le temps, et ça existe d'autant plus depuis quelques mois, depuis qu'il y a tous ces discours de faf à la télé et tout le machin, les agressions contre les homos ont augmenté de 30% à Montpellier, par exemple.
Et puis on trouve des autocollants, des affiches dans les rues qui sont
absolument abjectes. Homophobes, etc. Et du coup, les violences, elles augmentent. Pour parler de l'actualité, le droit au mariage, c'est très bien, mais ça n'empêchera pas les violences, de toute façon. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des témoignages, il faut quand même en parler, il faut quand même continuer, de toute façon, c'est à nous de prendre de la place. Hein. Je veux dire, la place qu'on laisse, c'est eux qui la prennent. C'est les homophobes qui la prennent. Donc, j'ai écrit le petit bouquin pour prendre de la place.
Et pour rappeler tout un tas de choses, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que il y a ce que tu racontes de ce que tu as vécu, où évidemment là on est dans l'émotion, en plus t'as une écriture rapide comme ça qui fait qu'on est vraiment avec toi dans ce qui t'arrive, et puis à des moments, tac, ça se pose, et puis là c'est du discours politique, c'est ça recadre, on est là-dedans, on est dans cette société homophobe, ce qui se passe c'est un reflet de cette société, une conséquence de toute cette éducation à l'hétérosexualité potentiellement criminogène, ouais. comme tu le dis, et ça c'est aussi très intéressant quand on lit le bouquin. Moi j'aimerais bien lire un petit passage là, c'est le moment justement où tu décides. Donc en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on t'accompagne, on a l'impression de t'accompagner dans ta réflexion. Est-ce que je suis une victime, mais je veux pas être une victime? Réflexion sur le statut de victime, réflexion aussi sur est-ce que c'est des criminels? Mais en fait, je suis vivant, les criminels, c'est les gens qui assassinent, mais je suis vivant, donc est-ce que c'est un crime? Etc, etc. Donc on t'accompagne vraiment dans ces réflexions. Et puis, il y a des moments donnés où, toi, ça fait longtemps que tu réfléchis, et que tu dis des choses et que tu milites, donc, et donc tu reposes les choses très clairement, et ça fait du bien. Donc je voulais lire ce passage où donc tu décides d'aller porter plainte. Peut-être, parce que de les laisser filer sans rien leur dire, c'est leur laisser l'autorisation de péter la gueule ou de violer un autre freluquet. Demain, dans 10 jours, le mois prochain, ils savent faire, ils sauraient recommencer. Violer d'autres gringalets comme moi par mépris, par haine des tapettes ou de ce qu'ils n'arrivent pas à régler avec eux-mêmes. Avec crachat, coup de poing, de pied, de bite, éjaculation comprise, avec l'âme ou sans l'âme, c'est les autoriser à en tuer un. Le prochain coincé entre leurs cuisses y perdra peut-être sa vie, contrairement à moi. Fuck off, c'est eux ou nous. Je lutte depuis suffisamment longtemps contre l'homophobie pour savoir combien les tarlouses passent régulièrement à la casserole, combien sont tués, pendus, défigurés, insultés, isolés, décapités, caillassés, tabassés, humiliés, ici et partout ailleurs. Puis, je constate que les réseaux anti n'ont pas d'outils efficaces pour résoudre ces situations-là. Comme si le viol n'était pas suffisamment politique. Comme si le viol n'était qu'une histoire de bonne femme ou de fiotte, et pas une histoire de mec salaud. L'homophobie ne serait qu'une histoire de PD, une histoire subsidiaire. Alors que de fait, elle est un des outils indispensables pour le maintien des normes hétérosexuées.
Oui.
C'est clair.
Ouais. Mais du coup, je voulais... c'est la même chose que l'histoire des femmes en fait. Hein. Tu changes les mots un petit peu et c'est la même chose que l'histoire des femmes en fait. C'est pour ça que j'étais accompagné par des copines féministes à l'époque et que c'était les seules qui étaient logiques en tout cas dans leur démarche.
Mais là, donc, tu dis, je constate que les réseaux anti n'ont pas d'outils efficaces pour résoudre ces situations-là. Est-ce que tu penses que depuis 1997, il y a des nouveaux outils? Est-ce que
non, je pense pas.
Non.
Non, je pense pas. Mais je pense aussi parce que on est dans des milieux où il y a des luttes globales qui sont prioritaires, et puis des luttes subsidiaires, les luttes contre le patriarcat, les luttes féministes, les luttes contre l'homophobie. C'est toujours des sous-luttes un peu. Du coup, par exemple, Notre-Dame-des-Landes est une lutte globale, et j'ai entendu dire qu'il y a quelques semaines, il y a eu une discussion justement sur le sexisme. Bon, je sais pas pour quelle raison, mais enfin, je me dis, il y a certainement une raison pour laquelle il a fallu poser des histoires de sexisme dans cette lutte globale, qui est prioritaire. Qui est une lutte prioritaire, ce que j'entends très bien sûr, hein, pour moi il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'on n'est toujours pas très au point sur les histoires de... les féministes sont souvent considérées comme des chieuses, et les PD sont plutôt invisibilisés, ou enfin peut-être pas, mais en tout cas c'est des sous-luttes ou des luttes périphériques.
Mais quand même depuis 97, alors pas au niveau de la société, mais au niveau du soutien, au niveau de groupes LGBT, etc., il y a quand même eu cette scène, que ce soit au niveau, ça on en reviendra, au niveau du militantisme, on en parlait tout à l'heure de comment changer les choses, et le choix que t'as fait de t'orienter plus vers des spectacles, de l'artistique que du texte militant. Donc que ce soit au niveau de cette scène-là, que ce soit dans des squats, que ce soit de la littérature, des brochures, etc., ça a quand même
ça avance,
beaucoup plus riche
que la société. Puis c'est beaucoup plus visible, et puis et à nouveau... Virginie Despentes, enfin je reviens sur Virginie Despentes qui a écrit un texte il n'y a pas très très longtemps là, qui est fabuleux, et je me dis bon
bah, alors c'est Jospin.
Oui, voilà,
oui, oui, oui.
Qui est vachement bien, et bon, et puis en plus qui elle est une personne qui est connue, donc du coup bon ça crée énormément de visibilité, puis bon finalement ce qui se passe en ce moment donne énormément de visibilité aussi au Lutomo, hein. Donc c'est très bien, enfin je veux dire merci les cathos, mais et puis après dans la mouvance, dans les mouvances libertaires et tout ça, oui bien sûr ça bouge. Ça bouge parce que je pense qu'on secoue depuis. Enfin moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Que par exemple sur Toulouse, et maintenant il y a une scène transpédiguine, bon, c'est absolument génial parce que bon, on est nombreux et nombreuses et du coup, bon, on est visible. Mm-hmm. Donc il y a quelques autres villes en France où ça bouge, bon, et en Europe évidemment, tu vois, Londres, ouais, Berlin, etc. Mais bon, sinon ça, dans nos mouvements, ça bouge. Bien sûr, mais bon, la France, elle a toujours quand même, tu sais, du retard quand même. Hein. C'est un peu lent, c'est un peu réac, un peu. Ça met toujours plus de temps, hein, parce que bon, des PD qui squattaient, il y en avait à Amsterdam dans les années 80, quoi. Mm-hmm. Et qui étaient confrontés aux mêmes situations que nous il y a quelques années, c'est-à-dire bah toi de devoir reprendre les mecs parce que tu dis pas qu'un flic c'est un enculé par exemple, enfin mm-hmm. bon, tu vois recadrer sur des trucs comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire ces histoires de langage, etc. Bon bah, tout un travail que moi je faisais justement quand j'étais un peu plus militant et tout le machin sur le langage. Et non, les flics, c'est pas des enculés. Et c'est une insulte homophobe, etc. Enfin bon.
Ouais, on a même vu là, dans des manifs justement contre les cathos intégristes, des gens les traiter. Donc c'est sûr qu'il y a du boulot.
Il y a du boulot, oui.
On fait une petite pause musicale peut-être ? Avant de reparler, ou...
Donc vous voulez, ou...
Puisqu'il nous a aidé de la musique.
Ouais. Quel est-tu,
Giro? Bah oui, on peut faire une petite pause musicale, comme ça je fume un clope.
Allez.
Ouais. Ça marche, allez, on va s'écouter 8 Mile.
Cause he hasn't got the guts. He don't like the Asian, says they go to Bamazol. Although he's barely spoken to a single one at all. He don't like the police, says they'll take all the jobs. Although he'd rather kill himself than never get a job. He don't like the dyke, says they're all just like men. Why don't they wanna fuck him like the Potomac say? Oh, Tomo is a hard knock, knows his way around here. Everybody moves away when he comes near. Knife in his pocket, hand on his balls. Walking like he doesn't know how to walk at all. Tomo always stoned, don't know what day it is. Which is a shame, cause sober is exceptionally thick. Tomo always angry, Tomo never cry. Except when they get serious, I'm for fallers wise. No, he don't like the queers, queers make him sick. Even the ones he forces to go down and suck his dick. He don't like the Irish, he don't like the blacks. When asked to join the BNP, he said, won't stop. He would hate the working class if he was so poor. He would love his granny if she weren't so fucking old. He would love his brother if his brother weren't a spaz. He would love his mother if she weren't so fucking fat. Go home! Go home! Oh no one loves you, Tomo! Go home! Go home! Oh Tomo, Tomo! Fuck off home! We don't want you here!
Quelle est la suite 92.2, nous sommes toujours en compagnie de Giro qui sort son premier livre, Comme un chien, aux éditions Crash.
Aux éditions Crash, oui.
Alors, pour continuer juste sur l'histoire du livre, il y a un moment, ça se termine par un procès, Enfin, ça oui. se termine pas par un procès pour toi. Oui, mais oui. il y a le passage du procès, donc, aux assises. Et alors là aussi, c'est, enfin, je sais pas, il y a un proverbe qui dit qu'un procès, c'est une pièce de théâtre.
C'est exactement ça, ouais. Mais c'est exactement ça, bon, en plus, bah, un vieux théâtre, hein, parce que.
La justice est poussiéreuse.
C'était un vieux tribunal tout en bois et tout, avec le parquet qui craque et tout, et c'est vrai que, oh, c'était un jour de pluie, c'était glauque, et
c'était on rentre,
c'était dans l'Allier, et le premier jour, il y a plein de gens dans la salle, et je me dis, mais.
Qui sont des copains?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je me dis, mais qui sont ces gens et tout? Et en fait, moi, je sais pas du tout comment ça se passe. Enfin, je suis allé parfois dans des procès d'assises, mais je suis pas allé du début jusqu'à la fin, donc je connaissais pas du tout le processus, quoi. Et en fait, les gens sont appelés les uns après les autres pour savoir s'ils vont être jurés ou pas. Et au début, c'est essentiellement des femmes qui sont appelées, donc la défense des trois gars, dit non, bah pas, ouais, parce que j'imagine que les femmes sont plus sensibles aux histoires de viol que les hommes. Et mais bon, finalement, dans le jury, il y a 5 femmes et 4 hommes. Et bon, bah là, je comprends. Bon, ça prend un bout de temps. Donc, voilà, c'est effectivement la pièce de théâtre se met en place. Bon, mais en plus, les gens sont costumés quand même. Alors. C'est bon. En plus, j'ai fait un peu d'études de théâtre et tout, et où j'ai appris que bon, les premières pièces de théâtre, finalement, c'était dans les églises, puisque les gens, les églises aussi, les gens se costument. C'est une cérémonie. Et je me suis dit, mais en fait, ici, c'est pareil, quoi. En fait, c'est cérémonial, quoi. C'est et puis il y a tout un tas de codes que moi je connais pas et tout. Et
Que toi tu es concerné, mais on t'a pas, c'est une pièce de théâtre, mais par contre on t'a pas donné ton rôle à étudier.
Non, pas du tout. Alors moi je sais pas du tout. Je suis au fur et à mesure et tout ça. On parle bien de moi, mais je dis rien, quoi. C'est vrai que l'histoire, on est totalement dépossédé de l'histoire, en fait. Et je dis, mais en fait c'est bien, mais c'est tant pis, tant mieux. Je marque tant pis, tant mieux, parce que en fait c'est. Quand tu vas porter plainte, c'est aussi tu laisses quand même un paquet de cailloux. Enfin, c'est chacun dans sa vie a son paquet de cailloux et à porter. Hein, mais en fait, de porter plainte, c'est quand même se lester, ça, ou se délester, je sais pas comment.
Se délester peut-être.
Se délester d'une partie de ces cailloux-là. Et mais au tribunal, en fait, c'est ça. En fait, je suis délesté de mon histoire. Alors tant pis, tant mieux, parce que finalement j'aurais pas pu affronter cette histoire là tout seul. Et la justice, elle sert à ça, en fait. C'est leur métier. Et c'est ce que je me dis par la suite, en faisant la réflexion. Je me dis, bah oui, en fait c'est leur boulot. Mais on est totalement dépossédés, oui.
Tu rappelles d'ailleurs, à un moment donné, tu penses à, tu vois ces trois gars et tu dis, mais on était les quatre ce soir-là seulement.
Ouais. Oui, c'est ça, on est les quatre seuls et à connaître l'histoire, et on peut pas en parler.
Et ouais.
Et on est les quatre seuls à pas pouvoir en parler, en fait. Entre nous, moi je trouve que c'est ça qui manque, en fait. C'est à quel moment, c'est ce qui me manque, pas jusqu'à maintenant, parce que bon, j'ai fait le deuil de ça quand même, mais je pense que c'est ce qui m'aura le plus manqué dans toute cette histoire, c'est que à quel moment j'aurais pu en parler avec eux. À aucun moment, en fait, on a l'occasion de pouvoir en parler, et je trouve ça chiant, en fait.
Eh bien, que dire d'autre, à part que je répète, le style est un régal. C'est pour une histoire tragique comme ça, pagaie, qui commence par un gars qui a peur de rater son train dans ce moche gare de la Part-Dieu, et qui se termine dans la dernière phrase, être à bas ma mort.
Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. C'est parce que justement, violer quelqu'un, c'est le tuer. Enfin, il y a des gens qui sont violés et qui se retrouvent en hôpital psychiatrique. Je veux dire, il y a des gens qui sont flingués j'ai écrit le bouquin là parce que je suis contre ma mort. Mais au-delà de tout ça, d'ailleurs, je suis contre ma mort globalement. la mort des autres m'attriste énormément. Je veux dire, quand j'ai des copains qui meurent, ça me rend extrêmement triste. Je trouve que la mort est une chose absolument dégueulasse. Mais la pire, c'est la mienne. Enfin,
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, donc après le procès, tu reviens sur cette violence et tu dis, en fait, cette violence, je la connaissais. Tu reviens sur la violence de la société, sur la violence de l'homophobie.
Oui, parce que moi, ça a commencé quand j'étais en sixième. Enfin, bon, dans les petites écoles, ça va. Jusqu'au CM2, ça allait. Mais dès que je suis arrivé au collège, j'étais efféminé. Et bon, en plus, il y a l'histoire que je suis aussi, je suis haut comme trois pommes et gringalet. Et du coup, bon, j'ai une cible beaucoup plus facile que si je faisais 1m90 et que j'étais rugbyman, hein, ça c'est évident. Et moi, dès la sixième, je me suis fait emmerder à l'école, au collège. Je me suis fait emmerder au collège jusqu'en. Après, ça s'est calmé au lycée parce que j'ai fait un lycée d'hôtellerie. Et bon, là, j'ai retrouvé un autre copain PD. Enfin, il y avait un collègue dans ma classe qui était PD, donc on a fait un gang, quoi, toi, on se marrait bien, quoi, mais surtout dans les cours de sport, qui jusqu'à maintenant avait été pour moi un pur calvaire, parce que les cours de sport, c'est de la non-mixité masculine, et moi, je me retrouvais pas du tout dedans, quoi, enfin, dans la construction des genres, je me considérais pas du tout comme un homme, ni comme un garçon, rien du tout, ça faisait pas moi une fille, mais je me considérais, je sais pas où j'étais, et les cours de sport pour moi c'était l'enfer et bon c'était assez bon les petits mecs entre eux ils sont durs quoi et bon moi j'étais un petit mec pas très costaud et tout bon c'est un cauchemar les récréations c'était un cauchemar heureusement j'avais plein de copines qui me défendaient enfin moi, j'avais plein de copines et elles m'ont souvent défendu dans les cours de récréation mais c'est la même histoire. Ça commence très jeune, en fait. Ça commence à 10, 11, 12 ans, là, que les gamins, ils commencent à être homophobes.
C'est un âge dégueulasse, de toute façon.
Ouais, ouais.
C'est où qu'on peut trouver, donc, ce livre?
Voilà.
Alors, pour l'instant, on peut le trouver à Terra Nova et à Ombre Blanche, à la librairie du Chat Noir à
Rue de la Gloire.
Rue de la Gloire. Ouais. Et puis, ben, là, cet après-midi, je vais continuer. Là, je vais continuer à faire la distribution. Je vais passer dans d'autres librairies. Et puis, ben, sinon...
Vous pouvez le commander.
Ouais. Sinon, il y a l'association Crash. Donc, vous pouvez le commander sur crash.bouquin. Donc, crash.bouquin, crash.bouquin@gmail.com. Et puis, sinon, vous pouvez aussi aller sur le blog de Crash Asso. Donc, c'est crash.asso.
Non, c'est crashasso tout attaché.
Ah, c'est crashasso tout attaché, ouais. Ok.
.wordpress.com.
Voilà, et dessus, au fur et à mesure, j'écris les librairies dans lesquelles on peut le trouver. On peut aussi le trouver à Limoges, à
Undersound.
Et à la librairie Mots et compagnie à Carcassonne.
Et alors, quel projet? Donc, tu as écrit dans des zines, tu as écrit dans des magazines, tu as écrit ce texte. Est-ce que tu vas continuer à écrire?
Ouais, j'ai bien envie de continuer à écrire et tout ça, mais je sais pas si je peux parler des projets et tout, parce que faut pas vendre la peau de l'ours avant de la tuer. Et comme ça fait déjà longtemps que j'ai ces projets et que, bon, ils sont pour l'instant, je commence à les mettre en place et il y a du travail, enfin. Donc il y a des projets collectifs que j'aimerais faire. Moi, bon, j'aimerais bien faire, et bon, je le dis. comme ça sera pas un secret. Non, j'aimerais bien écrire sur la scène transpédéguine toulousaine parce qu'en fait ça fait une dizaine d'années qu'elle existe. Il s'est passé beaucoup de choses et je trouve que c'est important aussi de laisser des traces de ce qui se fait, de ce qui a été fait. C'est de l'histoire et il faut écrire l'histoire. Enfin, pour l'instant, c'est du présent, mais dans 20 ans, ça sera de l'histoire et il faut la raconter.
On rappelle que ça s'appelle Comme un chien, donc.
Ouais. Et que je m'appelle Giraud.
Et que mes cheveux sont nés. Voilà. Enfin, ça fait longtemps qu'il est né, mais ça me paraît désagréable.
Ça fait un bout de temps.
Ouais. Non, merci beaucoup.
Merci
à vous.
Un peu de musique.
Je vais avoir le plaisir de vous chanter Le trou de mon quai, petite chansonnette métropolitaine. Demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, s'il y a un trou dans mon quai, vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. L'autre jour, je rencontre un vieil ami de province. Je lui dis, tu tombes bien mon prince. De Paris, je vais te montrer toutes les curiosités. Je voudrais d'abord voir la galerie des machines. Je lui réponds, tu t'imagines qu'à Paris, il n'y a que celle-là, j'en ai une plus chouette que ça. Accepte à dîner, je t'en prie. Après, sans trop nous fatiguer, je te ferai voir une galerie.